Alors, la grâce d'être femme à travers la Vierge Marie, c'est un titre peut-être un peu provocateur pour les féministes contemporaines, mais ça fait rien, c'est pas grave. Je voudrais essayer d'aborder quand même ce sujet sans blesser personne, sans choquer, et en donnant envie aux femmes de se réaliser, le mot est à la mode, mais se devenir soi-même une femme à travers Marie, en écoutant et en regardant Marie. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la création. Vous l'avez entendu plein de fois. Mais moi, je vais faire comme pour la dépêche d'Ems, je coupe. Comme ça, on a ce qui m'intéresse. Yahvé modela l'homme avec la glaisse du sol et lui insuffla dans ses narines une haleine de vie. L'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu dit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il est tout seul, hein, il n'y a pas Ève. Puis, il prend Adam comme ça, et lui dit: il modela encore du sol toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna un nom à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Alors, Yahvé Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria: à ce coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et celle-ci sera appelée femme. Donc, extraordinaire, Ève a été créée pendant le sommeil d'Adam. On comprend pourquoi les mecs s'endorment quand on veut leur dire un truc important. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est important, moi, ce qui m'a vraiment plu en relisant, c'est que Dieu donne à Adam les lois qu'il crée pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est Adam qui est le dépositaire des lois de Dieu. Il lui dit, avant que Ève vienne, et il lui demande de nommer toute chose créée. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est bon. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a le serpent, parce que vous savez l'histoire avec Satan, Saint-Michel, blabli, blabla. C'est un petit peu compliqué. Ève, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est créée pour donner une aide à Adam, mais ça ne veut pas dire que c'est une servante, on va voir ça après. Elle est créée pour une compagnie agréable, recto, verso, hein, les deux. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle découvre tout. Elle n'est pas dépositaire de la loi de Dieu. Mais Adam lui en a parlé, forcément. Il lui a dit, ben regarde, tu vois, ça c'est un chêne, ça c'est un saule, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est un tigre, un léopard, bon. Et ça, c'est l'arbre, ben, il vaut mieux pas y toucher, quoi. Le bon Dieu nous a dit, c'est pas la peine. Mais Ève, bon, ben voilà, c'est comme ça, elle est allée, elle a mangé. Elle a mangé, elle a trouvé ça bon, elle la donne à Adam, et Adam croque. Sans réfléchir. Où il était Adam au moment où Ève a cueilli la pomme ? À côté d'Ève. Il n'était pas derrière. Hein. Il était avec elle. Et quand le serpent était là et tout, il était là. Il n'était pas au champ. Et quand Dieu est arrivé pour dire « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Adam, c'est pas moi, c'est elle. Super, il a manqué de courage. Voilà. Il n'a pas été l'homme détenteur de la loi de Dieu. Il n'a pas été le protecteur. Il n'a pas été celui qui est avec son épouse et qui va faire ce que Dieu leur demande. Non. Il s'est barré comme un petit enfant. Mais Ève, je ne parle pas assez fort, je sens. Ève, au moment où elle a avalé la pomme, ça a été quand Adam a commencé à manger, Ève, elle a senti que l'union avec Dieu était rompue. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que nous sommes beaucoup plus intuitifs que les hommes. Et que ce qui se passe avec le ciel, nous le sentons. Donc Ève, elle a senti qu'il y avait une rupture entre le ciel et l'homme. Adam n'a pas été courageux. Il n'a pas été protecteur. Il n'a été que le second. Donc en fait, tout ça, ce n'est pas pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a une complémentarité dans la faute. Il y a un acquiescement dans la faute. Donc, quand Ève agit, elle agit sans regarder ni Dieu ni Adam. Et Adam, il regarde rien du tout. Il regarde peut-être la pêche qu'il fait, j'en sais rien ce qu'il fait. Donc, il devient à ce moment-là l'accusateur. C'est pas moi, c'est elle. Super. Eh bien ça, je pense que nous le portons depuis le début. Nous nous sentons responsable de ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous voyez certains écrits du 19e siècle, on voit bien comment la femme était systématiquement celle qui était la pécheresse, celle qui avait fait chuter le monde, celle qui, vous savez, le peuple juif a tué Jésus, la femme a fait tomber l'humanité. Bon, c'est des clichés, mais en fait, ça a été quand même développé dans une certaine littérature qui n'est pas franchement très agréable. Mais du coup, Ève, elle n'a plus envie d'être soumise à Adam. Mais soumise, cette fameuse soumission, vous savez, dont on parle, Saint Paul, etc. On est là en train d'avoir un petit peu la trouille de ça. Mais la soumission, qu'est-ce que c'est? C'est pas « tu vas aller faire la vaisselle, s'il te plaît, et dépêche-toi, et lange les enfants, et tout ça ». C'est pas ça. La soumission, c'est se mettre sous la protection de quelqu'un. Comme l'homme est soumis à Dieu, la femme est soumise à l'homme, mais soumise pour être protégée. Et les hommes sont soumis aux femmes aussi. Enfin, je vais pas lire la lettre de Saint Paul, mais c'est comme ça. Donc, en fait, c'est réciproque. On se met sous les protections l'un de l'autre. Mais les hommes, c'est compliqué. Ils ont quelque chose de difficile. Ils n'arrivent pas, franchement, à être naturels depuis ce moment-là. Donc, ils exercent une espèce de domination. Une espèce de domination. Et ils n'arrivent pas, c'est dans la nature des hommes, c'est très compliqué, de leur faire dire « je t'aime ». Ils arrivent mal à exprimer leur amour, les hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nougaro, beaucoup sont trop jeunes, mais Claude Nougaro, il chantait « une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, bon, et moi qui cours après, et qu'est-ce que je lui ai fait ?» Il comprend pas, il lui dit, mais je ne comprends pas, parce qu'elle avait rêvé je ne sais quel amour absolu éternel, il faudrait ne penser que pour elle, n'exister que pour elle, en bouffant, en brasant, quand je voudrais dormir, il faut lui dire que je l'aime. Bon, c'est insupportable pour les hommes. Ils n'y arrivent pas. Nous, on attend ça. On attend qu'ils nous disent ça. Sauf que, par exemple, quand on est les mains dans la farine, ou en train de langer les bébés, etc., c'est le moment où ils vont nous dire, ma chérie, je t'aime. C'est pas franchement le moment où on a envie de les entendre, mais c'est systématiquement les moments qu'ils choisissent. C'est comme ça, c'est dans la psychologie des hommes. On peut pas leur en vouloir, les pauvres. Ils sont gentils, hein, faut quand même dire. Donc Dieu a créé deux êtres complètement différents, avec une chute formidable, largement partagée. Et donc, on est un peu dans une situation pas difficile. Alors, heureusement, on a le nouvel Adam avec Jésus, c'est formidable. Et Jésus relève les femmes. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, je prends juste quelques femmes relevées. Hein. La femme adultère. À cette époque, les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais les femmes étaient punies. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Enfin, c'est comme ça. Jésus ne la condamne pas. La Samaritaine. La Samaritaine, elle ne ment pas à Jésus. Elle lui dit la vérité. Et Jésus la relève, elle aussi. Parce qu'elle est pure dans son péché. C'est-à-dire qu'elle est pécheresse, mais c'est un être humain que Dieu aime. Donc Dieu aime l'être humain et relève du péché. Ça, c'est prodigieux. Après, les femmes, par exemple. Regardez Véronique. Véronique, sur le chemin de la croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un mouchoir, elle vient, elle essuie le visage de Jésus. C'est une pure merveille. Jésus, qu'est-ce qu'il lui fait un cadeau? Il met son visage sur le linge. Mais on ne lui demande pas, Véronique. Elle y va par compassion. Et elle est devenue célèbre. Tandis que Simon de Cyrène, il n'y est pas allé naturellement. Hein. On lui a demandé de la porter la croix. Il l'a fait. Il a dit oui. Et il a été vraiment génial. Mais bon, quand même. Les filles de Jérusalem, quand Jésus les croise, qu'est-ce qui se passe? Jésus les voit pleurer. Il ne faut pas s'imaginer que les filles de Jérusalem, c'était les gens bien nés du coin qui suivaient Jésus. Hein. C'était les pauvres, les paumés, les prostituées qui suivaient Jésus, parce qu'elles, elles savaient qui c'était. Et Jésus, il est plein de compassion pour elles. Et il leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants. Pleurez sur ce qui va se passer, parce que bon, c'est sûr qu'après, ce n'était pas vraiment génial. Donc, c'est extraordinaire la façon dont Jésus relève. À la résurrection, à qui il annonce la résurrection en premier? Aux femmes. Alors les méchantes langues vous disent qu'il annonce ça parce qu'elles allaient parler, qu'elles ne peuvent pas garder un secret, qu'elles vont le redire. Ça, c'est des méchantes langues, sans doute des hommes. Mais les femmes, elles y vont. Elles n'ont pas peur. Parce qu'il fallait braver l'ennemi, il fallait oser aller s'occuper de quelqu'un qui avait été condamné à mort et qui avait été méchamment condamné à mort. Elles ont été extrêmement courageuses. Et Jésus leur demande d'annoncer la résurrection au collège apostolique. Ce n'est pas n'importe quoi. Il les charge de quelque chose d'extrêmement important. Et elles y vont. Alors vous savez, dans ce qui nous est raconté, ils ont cru que c'était des radotages. Parce que c'est comme ça, au début on ne croit pas, puis après ils ont cru, et après c'est devenu des apôtres formidables, c'est comme ça, hein. Les compagnons de Jésus qu'il avait fréquenté, qui avait fait plein de trucs avec eux, avec lui, qui avait été, ben, ils n'ont pas eu le courage, encore une fois. Ils n'ont pas eu le courage, et les femmes ont bravé tout ça pour aller aider Jésus, enfin aider, aimer, continuer à montrer à Jésus qu'elle l'aimait au-delà de la mort. Ça, c'est très, très, très important. Donc ça, c'est un long préambule pour essayer de situer les hommes et les femmes, que vous savez bien, enfin, voilà. Et on va essayer de regarder comment être une femme à travers la Sainte Vierge. Alors, je voudrais qu'on essaye chacune de visualiser les apparitions de la Sainte Vierge qu'on connaît. Je prends les plus connues. Lourdes, Marie, elle a une robe, un manteau blanc, une ceinture bleue et un voile. À Pontmain, Marie a une robe d'un bleu profond avec une couronne d'or, des étoiles partout et des croix rouges autour. À la Salette, elle a une robe ample, une super ceinture, une très jolie couronne pleine de diamants. À Anglette, elle est entièrement vêtue d'or. À Bargemont, si vous avez l'occasion de regarder une reproduction de Bargemont, c'est super. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il faut lire la passion de Bargemont, elle est superbe. Elle est vêtue de velours et de soie vert. Elle est blonde et elle a une petite couronne. Elle est superbe. Alors, si on s'en rend compte, je ne sais pas si vous avez vu, là, tous les soirs, elle est habillée, elle a un manteau nouveau. Hein, un coup bleu ciel, un coup bleu nuit, un coup rouge, c'est prodigieux. Elle a ça. Et on se rend compte qu'elle n'a jamais les mêmes accessoires, parce que dans toutes les apparitions, elle n'est jamais habillée de la même façon. Et je ne vous parle pas en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud. À chaque fois, c'est des vêtements différents. Hein. Bon. Alors, elle est incroyable. Regardez les belles choses qu'elle a ici aussi. Tout ça, ça nous donne un grand espoir pour l'éternité sur la garde-robe qu'on pourra avoir. Mais bon, mais je voudrais aussi, c'est aussi un truc quand même extraordinaire, c'est qu'elle a une fidélité au diamant. Ça aussi, j'ai beaucoup regardé, hein, pour écrire mon bouquin, j'ai beaucoup regardé sur tout ça. Mais bon, en dehors de ça, je crois que ce qui est important de souligner, quel que soit le pays où elle apparaît, quels que soient les endroits où elle apparaît, parce que vous savez qu'en France, elle est apparue plus de 1600 fois, donc c'est quand même pas rien, 1600 robes, hein. Eh bien, elle a une élégance et une pudeur qui sont deux éléments dont on doit s'inspirer. Si on veut ressembler à Marie, ce sont deux choses qui doivent quand même nous trotter dans la tête. Alors, à l'heure où on a quand même des tenues assez minimalistes, on se dit, quelle image renvoie-t-on de nous avec ce dont nous nous vêtons? Quelle qu'est-ce qu'on fait? Alors, je fais les. Nous habitons en Corse. Je fais les sorties de collège de temps en temps. Je vous assure, c'est effrayant. Hein. Non, mais c'est effrayant. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. On ne peut absolument pas justifier toutes les exactions de certains messieurs. Mais je vous assure que là, c'est affligeant. Affligeant de tenue incorrecte. Moi, quand j'ai enseigné il y a déjà bien longtemps, j'avais demandé à la directrice, c'était une école catholique qui était catholique, pas seulement dans le nom, j'avais demandé d'acheter des t-shirts blancs. Et elle avait un stock de t-shirts. Chaque fois qu'un enfant, fille ou garçon, arrivait avec une tenue que je trouvais inappropriée pour le cours, je leur demandais d'aller au bureau de la directrice et de mettre un t-shirt. Je vous assure, ça a duré 3 mois. Hein. Après, ils avaient tous des tenues normales. Ils avaient pas. Vous savez, quand vous enseignez Molière et vous avez un gamin qui écrit des tas de machins derrière, les autres lisent, rigolent, parce que c'était la mode des premiers t-shirts tout écrits, après des trucs devant. Enfin, ça n'a pas de sens. On n'est pas en classe pour avoir pour lire la littérature sur les inscriptions. Ce que je leur disais, vous auriez au moins les Fables de La Fontaine, ça pourrait passer, mais ce n'était pas le cas. Donc, tout le monde avait un t-shirt blanc. Quand, au bout d'un moment, plusieurs avaient un t-shirt blanc, je vous dis, à la fin, ils avaient tous des petits polos, c'était très bien. Voilà, donc c'est très important de voir que notre tenue est une image qu'on donne aux gens qui nous regardent. Et on ne peut pas se permettre de porter n'importe quoi. Quand vous avez des grands-mères, que je suis, qui s'habillent comme des gamines de 15 ans, ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens. Soyons à chaque âge avec les tenues qui nous correspondent. Autrement, on a l'air de quoi? Enfin, bon, la Sainte Vierge, elle est toujours jeune. Ça, c'est la différence. Et nous, on sera toujours jeunes dans le paradis. Ça sera bien. Alors, Marie est une fille d'Israël. Moi, j'aime bien, quand je fais mon chapelet, j'aime bien aller dans la maison de Sainte-Anne, Saint-Joachim, la Sainte-Vierge, etc. Donc là, on rentre dans la maison de Anne et Joachim. Vous vous rendez compte? C'est propre, c'est super, c'est bien rangé et tout. Bon. Marie, elle est conçue sans péché, donc quand même, c'est génial. La maison est bien rangée, bien accueillante. Elle a 15 ans, c'est une toute jeune fille. Elle est promise à Joseph. Une jeune fille fiancée, c'est extraordinaire. On a toutes, enfin ou presque toutes connu les fiançailles, c'est quand même génial. On n'a qu'une envie, c'est de donner l'amour dont on déborde. Elle va donner à son Joseph tout cet amour absolument extraordinaire. Et c'est une femme qui prie parce qu'elle est en direct avec le ciel. Enfin, même si elle ne connaît pas tout, comme nous l'ont répété les prêtres, bien sûr qu'elle ne connaît pas tout, mais elle est conçue sans péché. Donc, elle n'a pas la notion de choses qui la coupent de Dieu. C'est bien, papa et maman ont préparé quelque chose. Et puis, tiens, visite inopinée, on ne sonne pas à la porte. C'est Gabriel. Ah, d'accord, très bien. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut regarder les images de Giotto, enfin les reproductions de Giotto, ou faire les façons images d'Épinal. Si on veut être avec Marie pour être vraiment dirigé vers le ciel, il faut qu'on quitte toutes les images d'Épinal. Marie, c'est une jeune fille de 15 ans qui danse, qui chante et qui aime la vie, qui aime manger ce qu'on lui donne à manger, qui aime boire, j'en sais rien. Bon. Lorsque l'ange vient, on a l'impression que tout est simple, hein, c'est facile, etc. Mais non. Non, Marie, elle est là, elle va épouser Joseph, et l'ange lui dit, ben, je te salue Marie, etc. Et tout. Oui, très bien, elle se place tout de suite comme servante du Seigneur, parce que c'est une fille d'Israël qu'elle connaît, qu'elle sait où elle en est, elle se place comme une fille d'Israël. Mais, ça aurait pu être comme ça, allez, ciao, je m'en vais, merci, c'est bien. Non, elle pose des questions, comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme, elle n'est pas idiote. Elle sait ce qui se passe. Mais elle ne dit pas, et comment je vais faire, Joseph, etc. Non, elle dit, elle veut bien ce que Dieu lui demande, elle dit oui, mais elle dit comment ça va se faire. C'est-à-dire que ça n'est pas un oui, je vous dis, d'image d'Épinal, elle réfléchit et elle pose les questions. C'est très rapide le dialogue. Hein? L'Esprit te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que c'est la protection totale de Dieu sur elle parce qu'elle a dit oui. Et ça, nous devons le mettre dans notre tête. Si nous acceptons la protection totale de Dieu, Les choses sont beaucoup plus faciles. Je ne dis pas qu'elles sont très faciles. Je dis qu'elles sont beaucoup plus faciles. Donc, Marie, elle se présente vraiment comme la fille d'Israël qui accepte tout. Elle est fille de Dieu. Elle est avec son papa. Dieu, c'est son papa. Le père, c'est celui qui élève son enfant et qui l'élève dans sa dignité. Mais le rôle du père, du coup, parce que Marie avec le ciel, c'est comme nous sur la terre, hein, sauf qu'ils sont saints là-haut. Voilà, c'est toute la différence, et que Dieu est Dieu. Le père ne peut être pleinement père que si la fille est pleinement fille. Vous voyez, c'est extrêmement important. Le père doit se sentir pleinement père et agir en conséquence. Alors, c'est très compliqué, surtout aujourd'hui, les pères qui n'agissent pas selon l'amour de Dieu, qui commettent envers leurs enfants des actes absolument épouvantables, notamment des gestes incestueux, créent chez les femmes des blessures absolument horribles et difficiles à guérir. Du coup, c'est vrai que cette rupture avec notre Père du ciel pour celles qui ont été blessées dans ce domaine crée une rupture avec le ciel. C'est évident. Et certaines fois, on le voit bien dans l'accompagnement avec mon époux, parler du Père entraîne des espèces de d'étouffement chez certaines personnes qui font qu'on comprend très rapidement que le corps a été blessé et que le cœur et l'âme ont été blessés aussi. Mais c'est effectivement des choses qui sont difficiles, c'est compliqué, mais il y a un chemin à faire pour retrouver la paternité de Dieu quand celle de l'homme a fait défaut. Parce que le père élève la fille. C'est la mère élève la fille, bien sûr, mais qui dirige comme ça, c'est le père. Et ça, on ne peut pas. Aujourd'hui, où on essaye de mélanger les rôles, où on essaye de faire n'importe quoi avec n'importe qui, chacun son job. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Si on se coupe de l'amour maternel, de l'amour paternel, pardon, on se coupe aussi du regard des autres. Et quand on se coupe du regard des autres, au contraire, on cherche le regard des autres. Et le regard des autres qu'on cherche, en général, c'est le regard des hommes. Donc c'est compliqué parce qu'on se trompe de spectateur. C'est pas le regard de Dieu qui compte sur nous, mais le regard des hommes, et on se trompe. On est jugé, on se sent jugé à l'aune du chagrin qui est généré par les douleurs qu'on a encaissées. Et c'est très compliqué, parce que du coup, on peut devenir n'importe quoi. On peut devenir des aguicheuses, des séductrices, quelque âge et quelque situation qu'on ait. Hein. Donc, quand on sent quelque chose comme ça qui n'est pas clair en nous, au niveau de la paternité de Dieu, et donc du regard qu'on veut que les gens posent sur nous, on n'a qu'une seule solution, c'est Marie. On se tourne vers Marie et on la regarde en tant que fille de Dieu. On lui demande à elle, fille de Dieu, fille de Jérusalem, apprends-moi à être docilement et amoureusement la fille de Dieu. Et Marie, dans sa vie, elle n'a pas posé un seul fiat. On s'imagine qu'elle a posé un fiat et qu'après, génial. Mais elle en a posé tout le temps. Mais tout le temps, quand on voit le démon qui s'acharne sur chacune de nous, et on n'est pas des saintes, enfin en tout cas pas moi, quand on voit de quelle façon on est harcelé par l'adversaire. Marie qui était conçue sans péché, c'était du permanent. Donc elle, les fiat, c'est en permanence qu'elle a dû en poser. Et c'est en permanence qu'elle a dû dire des oui à Dieu pour pouvoir être réellement fille de Dieu. Donc nous, fille de Dieu par Marie, nous devons être aussi celles qui posons des fiat à travers ce que Marie nous propose et nous présente. Je vous assure, un copinage, c'est pas bien de dire ça, mais une amitié spirituelle et affectueuse avec Marie nous conduit dans des endroits absolument merveilleux. C'est important d'aimer Marie à la fois comme notre mère, comme notre sœur, comme vraiment partager la vie de Marie, c'est vraiment génial. Alors, donc, ça, c'est partager la vie de fille d'Israël, la fille de Dieu. Et si elle nous apprend, si elle, on la suit, elle nous apprend vraiment à être la fille de Dieu. Et surtout, elle nous apprend aussi que l'amour de Dieu est au-delà de toutes les apparences. Et que c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Alors Marie, mère. Marie est un réceptacle. Vous le savez, c'est pas un scoop. L'homme engendre, enfin jusqu'à preuve du contraire, et la femme enfante. On est capable de nous dire l'inverse maintenant, mais bon, on va rester dans ce mode traditionnel. Nous sommes faites pour engendrer, pour enfanter charnellement et spirituellement. Aujourd'hui, la femme a du mal à trouver sa place. On a du mal, en tant que femme, à se déclarer femme. L'identité féminine est mise à mal. Et je pense que de cela découle l'insécurité de notre vocation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression à l'heure actuelle, moi j'ai des petits-enfants, hein, je suis assez ahurie de voir ce que sont les grossesses. On a l'impression que c'est des maladies. Il ne faut pas manger de ci, il ne faut pas manger de ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. En revanche, on exhibe les ventres de façon... Alors, je ne dis pas indécent, parce que ça n'est pas du tout indécent, mais je dis ostentatoire, alors que on ne protège pas l'enfant. Pour moi, il y a une espèce de protection quand on mettait les... Alors, peut-être c'était trop... Je ne suis pas pour la burqa, ni la baya, ni quoi que ce soit, hein, mais... Quand on mettait les robes amples, il y avait une espèce de protection de l'enfant qui était un peu le secret de l'homme et de la femme. On avait cet enfant qu'on gardait et qui, on savait qu'on était enceinte, on était très fiers de l'être, mais on le protégeait, on le gardait. Tandis que maintenant, on le montre. Enfin, je vois toutes ces chanteuses, tous ces gens là, qui exhibent leur ventre. Je me dis, mais les pauvres enfants, avant même de naître, ils sont proposés en pâture au monde. Les pauvres, mais qu'est-ce que ça va devenir après, quoi ? Enfin, ça enrichit les psychologues, parce que là, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Gardons nos petits dans ce mystère de la naissance qui est lié à l'homme et la femme, quoi. C'est pas... Et le bon Dieu, hein, franchement. Donc, les femmes, elles doivent donner la vie. Elles donnent la vie pour donner l'amour en vue du ciel. Parce que nous avons à mener tout le monde. Si les hommes doivent élever, les femmes doivent mener. C'est comme ça, on doit mener les hommes au ciel. C'est compliqué. Jean-Paul II disait « La sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel l'époux répond par un don de l'amour au don de l'épouse. » En fait, nos entrailles sont faites pour donner l'amour, pour donner la vie. Et si on se coupe de l'amour, eh ben on ne peut pas engendrer ni la vie ni l'amour, quoi. Et on n'engendre ni la paix ni la sérénité. Ça devient catastrophique. Alors, quand une femme enfante, elle rejoint l'œuvre créatrice de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même génial. Non ? C'est quand même extraordinaire. On rejoint Dieu en donnant la vie. Moi, ça m'émeut, ça me fait quelque chose de vraiment formidable. Et Marie, elle accepte cette maternité sans savoir où ça va la mener. Nous aussi, on ne sait pas où ça va nous mener quand on a des enfants. On ne sait pas qu'on va se réveiller 15 fois par nuit, qu'il va y avoir la rougeole, qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela, que notre mari ne va pas pouvoir être tout le temps là pour nous aider, etc., etc. Donc ça va être très compliqué, mais c'est un désir de donner, de créer, de donner la vie pour l'amour. Alors, vous pensez bien que là, il y en a un qui n'est pas du tout content, c'est l'adversaire, et qui va susurrer des tas d'arguments pour que, évidemment, on ne fasse rien de cette sorte-là. Alors, je ne sais pas, en travaillant sur ce sujet, je cherchais des choses sur les enfants à l'heure actuelle, et j'ai vu des propositions de vacances, village vacances ou je ne sais pas quoi, hôtel, sans enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, eh ben c'est prodigieux. Ce sont des hôtels 5 étoiles qui proposent des vacances sans les enfants. C'est quand même génial. Vous vous rendez compte? Alors vous êtes là et vous avez, vous êtes entre adultes et non seulement ça, mais il y a aussi dans certains endroits des plages sans enfants. On arrive à des choses complètement débiles. Mais c'est grave. Et on va accepter tout ça. On va accepter qu'on fasse ça. Alors, on va se dire, bon, il y a peut-être des enfants mal élevés qui braillent dans les restaurants, etc. Oui, on va peut-être demander aux parents. Moi, je suis émerveillée là. Hein. Les enfants ici, c'est la grâce de ce pèlerinage. Ils sont tous bien élevés, gentils. Ils suivent les prières. J'admire les parents. Alors, je crois qu'il faudra faire un banc en partant pour les parents. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, chapeau, hein. Vraiment, c'est formidable, vraiment formidable. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué, mais attendez, on ne va pas être dans une société sans enfants. Ça veut dire quoi? Mais ça commençait déjà, parce que moi, j'ai mon premier petit-fils à 25 ans, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et quand il est né... quand il allait naître, je cherchais les lits, les machins, etc. À cette époque-là, on habitait en Chine. Je suis partie vite dans le magasin en arrivant en France. Et je vois, parce qu'en Chine, vous avez tout ce que vous voulez pour les enfants. Hein. Là, il y en a des enfants. Et il y avait des gondoles. Il y en avait 4 pour les animaux et une pour les enfants, pour les bébés. C'est quand même, ça vous fait un choc. Hein. Vous dites, attendez, on voit plus de litières, de machins, etc. pour les chats et les chiens que pour les bébés. C'est quand même ça, 25 ans. Pas possible. Je ne sais pas maintenant, parce qu'ils sont grands, je ne suis plus allée, mais je ne sais pas où c'en est, mais c'est quand même grave. On ne peut pas... Alors, de voir ce festival ici, c'est génial. On se dit, c'est vraiment très, très bien. Alors, bien sûr, je vous parle beaucoup de l'enfantement, etc. Je sais qu'il y a des femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et je ne peux pas dire que je sais la souffrance, parce que ça serait un mensonge. Je ne l'ai pas connue. Mais je crois, pour accompagner quelques femmes qui malheureusement ne peuvent pas donner la vie, combien c'est douloureux, combien c'est une souffrance. Moi, les mots sont inutiles. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Alors la seule solution que j'ai, c'est de demander rendez-vous quand j'arrive au ciel avec le bon Dieu, parce que ça sera des choses sur lesquelles je lui poserai des questions. Mais le reste, on ne peut pas savoir pourquoi. Il y a des femmes qui ne peuvent pas. C'est vraiment, vraiment terrible. Donc, on revient à Marie. Marie, elle porte Jésus en son sein. Vous me direz, génial. Elle est conçue sans péché. Il est parfait. C'est super. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander à Marie de nous réenfanter. Et si Marie nous réenfante, en fait, Jésus vient prendre en nous la place qu'il doit prendre. Parce que nous, femmes, ce à quoi nous aspirons, c'est la profondeur de l'être. Nous voulons ça, nous voulons vraiment être totalement donnés à Dieu. L'homme agit, vous le savez, il œuvre, il fait, et nous ne connaissons la plénitude que dans le don total de nous-mêmes. Et si on le refuse, il y a quelque chose qui est bancal. Donc c'est compliqué, hein ? Attention, on n'est pas rivaux, on n'est pas inégaux, je ne me mettrai pas là-dedans. On est des êtres complémentaires qui sont faits pour s'aimer. Si on nous enlève tout ça, si on essaye de nous montrer que l'homme doit être comme une femme et que la femme doit être comme un homme, on va nous amputer de notre nature profonde que Dieu nous a donnée. Et là, c'est une catastrophe. Alors on a encore là, qu'une seule solution, c'est se tourner vers Marie. Marie qui vit avec l'éternité et qui nous apprend à viser le ciel en étant avec elle. Donc, en fait, on a ça. Quand elle enfante Jésus, Marie enfante l'humanité. Donc, on peut lui demander de nous enfanter, c'est pas un problème. Nous sommes responsables de cet enfantement. Jean-Paul II disait, la force morale de la femme, sa force spirituelle, rejoint la conscience du fait que Dieu lui confie l'homme, l'être humain, d'une manière très spécifique. Vous vous rendez compte? On a la charge des hommes. C'est quand même pas rien. Mais qu'on soit marié ou pas marié, on a la charge des hommes. Les religieuses, elles prient pour les prêtres, c'est pas le même rôle. Elles ont ce désir aussi de permettre aux hommes, aux prêtres, d'être des prêtres à temps complet, enfin, pas à temps complet, pleinement réalisés, quoi. Dieu a choisi Marie pour être la mère de son fils. Il n'avait pas besoin de ça. Il est Dieu. Il aurait pu faire autrement. Mais Marie, en tant que femme, devient mère et devient l'inspiratrice de l'Église. Alors, le seul endroit où la femme a cette importance, c'est dans la religion chrétienne. On a vécu en pays musulman, en pays bouddhiste. Je peux vous dire, quand on vous raconte des carabissous sur la place des femmes dans ces deux cette religion et cette philosophie, il faut chercher. Hein. Dans la religion chrétienne, la femme, elle est importante. Elle est importante, elle a une grosse place. Elle accepte, Marie, d'être mère de Jésus. Elle ne sait pas vers quoi ça l'entraîne. Mais elle suit parce qu'elle veut vraiment, à chaque instant, plaire à Dieu. Le Verbe se fait chair, ça j'y reviendrai dans le couple. C'est la création de la parole, c'est la fécondité de chacune d'entre nous par l'acceptation de cette incarnation. Donc en acceptant d'être mère, vous vous rendez compte, on sauve l'humanité, c'est quand même génial, non? Et après on va voir Marie épouse. Alors ça va être certainement plus difficile, mais voilà. Pourquoi j'ai mis Marie épouse en dernier au lieu de la mettre avant? Parce qu'elle est mère avant d'être épouse. Elle a attendu Jésus avant d'épouser Joseph. Alors, c'est drôle parce qu'en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais peut-être aussi c'est pour nous faire accepter certaines femmes qui ont des situations un petit peu difficiles et qui vivent hors mariage une maternité. Donc, il faut aussi qu'on voit ça. Alors, ce n'est pas du tout le cas hein, de Marie, bien sûr. Mais peut-être, moi, ça m'a fait réfléchir sur le fait des femmes seules qui ont des bébés et qui se débattent dans des choses compliquées. Bon, mais on regarde dans le contexte de l'époque, elle doit épouser Joseph, elle est comme toutes les jeunes filles, pleine d'amour, je vous le disais, elle a tout plein d'amour à donner, c'est génial, Joseph, elle a dû le rencontrer, c'est certainement pas le vieux barbu qu'on nous présente, parce que je vois pas comment elle aurait pu tellement être amoureuse de lui, mais enfin, c'est comme ça, elle s'est réjouie d'être promise, et son cœur déborde, et elle va se donner dans un don total, sauf que, on a vu, il y a une visite de Gabriel, et que rien ne se passe comme prévu. La visite inattendue de l'ange, ça bouscule ses plans, tout est remis. En fait, combien de fois nous avons nos rêves brisés? Combien de fois nous avons des choses qui ne se passent pas du tout comme ce qu'on avait prévu? On désire des choses, on est rempli, et puis paf, il y a un événement qui fait que c'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Dieu. Elle fait rien, elle ne respecte pas. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Aujourd'hui, être épouse, ce n'est pas porteur. Ce n'est pas à la mode. Hein. Se dire qu'on est l'épouse. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je suis l'épouse de mon mari. Aïe, aïe. Ça, c'est pas ce qui est vraiment... Si on est avocat, médecin, secrétaire, professeur, ça va très bien. Mais autrement, non, non. Donc Marie, bon, voilà, elle attend un bébé et Joseph la prend pour épouse. Ils ne démarrent pas une vie top hein, de couple, c'est quand même pas extraordinaire. Ils arrivent tous les deux, elle est enceinte. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Joseph? Ben Joseph, il est comme Adam, il est celui qui détient la loi de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à Dieu, à l'inverse d'Adam. Il est le pourvoyeur, il est le protecteur. Et il écoute ce que Dieu lui dit. Lorsque l'ange lui dit de prendre chez lui Marie qui est enceinte, il dit pas non, 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 là, pas exagéré, hein, je vais pas faire ça. Non, non. Il va et il prend Marie. Lorsque l'ange le réveille en pleine nuit et lui dit écoute là, tu prends la mère et son enfant, vous partez en Égypte. Hein. Parce qu'en Égypte, ça va, vous serez protégés, tandis que là, Hérode va zigouiller tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Ils étaient SDF hein, quand ils sont arrivés en Égypte. Il ne faut pas s'imaginer autre chose. Ils n'avaient rien. Ils sont partis sur un âne. Ils n'avaient rien. Il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas l'accueil aux émigrés, il n'y avait pas tout ça hein, quand ils sont arrivés. Joseph, il a suivi ce que Dieu a demandé. Et Dieu a pourvu tout le temps où Joseph était là. Marie, écoute l'ange. Joseph écoute l'ange. Ils font ce que Dieu leur demande. Alors, ils sont dans leur petite maison. Et là encore, comme je suis allée tout à l'heure et je veux bien vous inviter, on est allé chez Anne et Joachim, je veux bien vous inviter chez Marie-Joseph. On arrive dans la maison, on prend un petit thé parce que c'est le thé, vous savez, des pays arabes, là, le thé bien sucré, bien chaud, avec un peu de menthe, là, c'est bien, c'est agréable. Et on discute comme ça avec la Sainte Vierge, c'est bien. Et puis Joseph arrive. Marie a fait le ménage, tout est bien, impeccable, super. Et Joseph arrive du travail. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'il fait notre bon Joseph ? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est le seul qui est pas saint dans les trois. Hein ? C'est quand même pas facile à vivre. Jésus, Marie, Joseph, ça ne doit quand même pas être une vie facile. Hein ? Bon, il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose son manteau sur le porte-manteau. Et je vous assure que c'est énorme. Il n'a pas mis par terre. Il n'a pas mis n'importe où. Il a fait quelque chose pour faire plaisir à Marie. Sauf que son manteau, il y a plein de morceaux de bois. Hein. Il a bien scié, il a bien fait tout. Et Marie a fait le ménage. Donc les copeaux de bois jonchent le sol. Vous et moi, qu'est-ce qu'on ferait ? On serait contente, on sauterait de joie au plafond en disant « Comme c'est bien, je viens de faire le ménage, c'est génial, j'ai plus qu'à recommencer. Hein » On ferait ça, enfin moi en tout cas je ferais ça, je serais pas contente. Marie, elle fait pas ça ? Marie, elle se réjouit du fait que les copeaux sont le signe du travail de son époux. Elle va rien dire. Elle va l'accueillir, elle va lui proposer le thé, elle va lui proposer les petits gâteaux qu'elle a faits. Et puis quand Joseph sera ailleurs, elle balayera les copeaux de bois. Elle ne lui fait pas de reproches. Elle ne lui fait pas remarquer. Elle salue le travail de son mari. Et en saluant ce que Joseph a fait, et ça, vous savez, c'est un travail de sainteté, hein, je vous garantis, elle le glorifie dans son job. Elle rend Joseph beaucoup plus viril que... Si elle lui avait fait des reproches, c'est qu'il serait allé chercher la balayette et... Enfin non, il n'y avait pas d'aspirateur. Vous comprenez ? On a un devoir d'éduquer nos époux. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas lui faire... T'as vu, j'ai quand même ramassé la poussière. Hein ? Bon. Pour lui faire comprendre quand même, parce qu'il faut quand même leur faire comprendre aussi, parce que c'est dur de leur faire comprendre le ménage. C'est dur de leur faire comprendre qu'on a mis un bouquet de fleurs et qu'ils ne l'ont pas remarqué. Le premier, le deuxième, le troisième. Au quatrième, on dit, t'as vu quand même, j'ai mis des fleurs, c'est sympa la maison. Ah oui, j'avais pas remarqué. Voilà, on va le remarquer. C'est important d'aider nos époux à voir ce qu'on fait pour que ça soit beau, pour que ça soit bien, mais sans les culpabiliser. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est... Surtout quand on est énervé. Puis vous, les jeunes femmes, à l'heure actuelle, vous travaillez toutes, donc vous cumulez le travail, la maison, les enfants... C'est franchement pas du pudding, votre vie. Parce que nous, au moins, enfin, moi, je travaillais un peu, mais pas... professeur, c'est pas, ça me prenait pas tant de temps que ça. Mais c'était pas... Vous avez beaucoup, vous avez des transports, vous n'êtes jamais logé là où vous travaillez. Enfin, vos vies sont difficiles. Donc, c'est vrai, les enfants, on a très difficile d'avoir de l'aide pour les enfants. Bon, c'est vraiment très compliqué. Ce que je vous dis, c'est un idéal, hein, ce que je vous dis de la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, c'est l'idéal. Donc, mais quand même, nous, en tant que femmes, nous avons à rendre une virilité à nos époux. Et aux hommes, quand on n'est pas marié, les filles aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de faire une société émasculée de garçons. C'est pas possible. On est là en train de dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous passe tout ce à quoi on a droit dans la science, dans les machins, dans toutes ces perversions qui nous mènent... je ne sais pas à quoi, mais enfin, à des choses horribles. Mais dans le quotidien, rendons les garçons garçons quand ce sont des petits, quand ce sont des enfants. Oui, les filles jouent à la dinette. Oui, les garçons jouent avec des voitures. Eh bien, c'est très bien. Et puis qu'on arrête de vouloir faire jouer les garçons à la dinette et les filles avec des voitures. Ça n'a pas de sens. Maintenant qu'il y ait des filles qui soient pilotes automobiles, pilotes de chasse, why not ? Mais bon... mon époux était pilote de chasse. On a rencontré une jeune femme qui a été pilote de chasse. Elle a dû quitter. Elle a eu toute la formation de pilote. ce qui coûte quand même une fortune à la France. Elle a quitté parce que le fait d'avoir la grâce d'être femme une fois par mois l'empêchait de piloter dans ces moments-là. C'est formidable, non ? Enfin, qu'on garde une raison correcte, qu'on fasse pas n'importe quoi, quoi. On n'est pas faite pour n'importe quoi. Il y a des femmes qui peuvent faire des choses qui sont des métiers d'hommes, mais on ne peut pas systématiquement tout faire, parce qu'on va arriver à des aberrations. Enfin, c'est une vieille dame, donc je peux vous le dire. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, on en parlera après. Alors, nous, si nous voulons tirer nos époux vers le ciel, comme Dieu le Père élève son enfant, nous, femmes, nous devons tirer notre époux vers le ciel. Nous devons tirer nos enfants vers le ciel. C'est nous qui avons la notion du ciel. Les hommes, ils ne l'ont pas tellement. Enfin, ils l'ont pas tellement. Ils l'ont, attention, je ne veux pas non plus... Ils n'ont pas cette intuition de la vie éternelle que nous portons en nous. Mais nous ne pouvons pas les aider si nous ne les reconnaissons pas dans leur identité masculine. Et avec nos enfants, pareil, on se doit de les respecter. On se doit de respecter nos enfants dans leur chemin, dans leur choix, pour pouvoir les tirer complètement vers le bon Dieu. Alors vous me direz de temps en temps, et surtout dans vos vies, qui sont des vies difficiles, qui sont vraiment, je le vois bien, hein, plus compliquées que celles que nous avions, le mariage a parfois des choses un peu compliquées. Mais de grâce, ne vous disputez pas avec vos époux. Ne vous disputez pas. Ça ne sert à rien. Parce que quand on se dispute, on dit des mots qui dépassent ce qu'on pense. Ça, c'est pas top. Les mots... Alors, on accompagne des jeunes ménages et moi, je suis un peu étonnée du vocabulaire qui est employé. Il y a même des mots... bon, je ne les répéterai pas parce que je ne les ai jamais dit de ma vie, donc voilà. Ça me fait mal parce que pour moi, le Verbe s'incarne. Quand Dieu dit « le Verbe se fait chair », c'est pas que le Verbe de Dieu, c'est tout ce qu'on dit s'incarne. Donc si on dit un mot grossier à son mari ou à ses enfants, ou que son mari nous dit un mot grossier, moi si mon époux m'avait parlé comme certains messieurs parlent à leur jeune femme, là, dont je serais partie, hein. J'aurais jamais accepté qu'on me parle comme ça. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est de dire des mots vulgaires ? C'est horrible. Et le mot vulgaire qu'on emploie, ils ont tous un sens. Hein, ils ont tous un sens et qui n'est pas beau. Parce que j'avais acheté un dictionnaire de l'étymologie des mots d'argot pour voir ce que ça signifiait. Non mais je vous assure, ça vaut le coup de se pencher dessus. Hein, parce que quand vous voyez le sens des mots, vous ne les dites plus. Hein. Eh bien, quand on voit ça, ça fait du mal à la personne à qui on dit ça. Mais ça nous fait du mal à nous de le dire. C'est de même que le chapelet est une arme de destruction de l'adversaire, de même le mot qui est mauvais nous détruit et détruit l'autre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui nous est donné. Ce qui nous est donné par la parole, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On doit avoir des paroles de bénédiction, des paroles d'amour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, hein, mais... On a une chance, quand on est marié chrétiennement, c'est qu'on a un sacrement. Et le sacrement de mariage, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais nous avons 53 ans de mariage, donc on a eu le temps de s'en rendre compte, c'est valable 24 heures sur 24. Nuit et jour, ce sacrement est présent. C'est quand même pas rien. Quand vous êtes, que c'était un peu tendu, qu'il y a des choses un peu difficiles, que la nuit, hop, 3 heures du matin, vous réveillez, ah, c'est pas top, tiens, ça tombe dans la tête. On prie le sacrement de mariage, mais ce sacrement qu'il nous a donné, on s'est promis fidélité, on s'est promis amour jusqu'à la fin de notre vie, etc. C'est extraordinaire. Surtout la nuit, ça s'en va. On est libéré. Libéré parce qu'on est de nouveau branché avec le ciel. C'est prodigieux. On a un truc absolument extraordinaire. On se rebranche complètement et on est dans l'amour de son époux. Et on retrouve l'amour du démarrage, vous voyez ? Des choses qui sont vécues, qui ont été vécues et qui sont vraiment, vraiment que ça. Et c'est à nous, femmes, parce que les hommes, ils ne le feront pas, de prendre le chemin spirituel. Les hommes ne le prendront pas naturellement. Ils n'iront pas naturellement dire, tiens, on va aller faire une prière ensemble. Ce n'est pas trop leur truc, à part des exceptions des saints. Hein, mais voilà. Mais en revanche, si Nous acceptons notre rôle de Marie, M-A-R-I-E, hein, de la Sainte Vierge, comme épouse, nous pouvons leur proposer d'aller vers le ciel par une prière qui est un temps de réconciliation, un temps d'amour. Et ça évite que tout se complique, ça évite que les choses soient dramatiques. Et puis tout s'apaise, c'est génial, après on va rester ensemble, c'est super, voilà. Alors, je voulais aussi dire une chose, c'est que les mamans, les femmes, c'est elles qui créent l'atmosphère d'une maison, vous le savez bien. Sans les mamans, sans les femmes, si on n'est pas maman, si on n'est pas mariée, il n'y a pas d'âme dans une maison. Ça, vous allez dans... Moi, j'ai un fils qui est célibataire, un qui est marié. Celui qui est célibataire, c'est formidable. Bon, celui qui est marié, sa femme a tout arrangé. Mais quand il est célibataire, eh ben, il y a les rideaux qui ne sont pas mis, il y a... encore que lui, c'est un peu un maniaque. Donc la vaisselle n'est pas écorchée, n'est pas ébréchée. Mais quand même, ça n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes choses. Parce qu'il n'y a pas une femme qui donne l'âme de la maison. Comme Marie donnait l'âme de la maison avec Joseph et Jésus, les femmes, elles font ça. Et je sais que vous cumulez tout, que c'est difficile pour vous. Mais c'est les femmes qui construisent la cellule familiale. Alors, les repas. De plus en plus, les repas, moi je vois ça dans les jeunes ménages, on ouvre le frigo, on se sert, on va, et il n'y a plus de repas familiaux. Alors ça, c'est la catastrophe. S'il n'y a pas de repas familiaux, il n'y a pas d'échange. Alors, je sais bien que le midi, ce n'est pas possible de prendre des repas ensemble parce que tout le monde travaille, parce que les enfants sont à la cantine, etc. Mais si le soir, vous ne prenez pas un repas en famille, ou bien que si vous ne dînez pas avec vos enfants, que vous ne soyez pas au repas de vos enfants pour dîner après avec votre épouse, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est important, le temps qui est à table est un temps béni. Écoutez, regardez la vie de Jésus, ça commence par un repas, ça finit par un repas, hein, les noces de Cana et la scène. Donc entre les deux, il y a tout le reste. Mais quand même, il faut qu'on voit bien que le repas est important. Autrement, il n'y aurait pas eu ça au début, à la fin. Donc c'est important pour les échanges. Et un repas sans télé, sans tablette, sans téléphone, ça c'est absolument génial. Les femmes, pareil, on doit pousser à la prière familiale du soir. Mais vous êtes comme ça ici. C'est comme ça. Et moi, ce qui me surprend aussi, je le vois encore toujours avec les jeunes qu'on accompagne, c'est les sorties entre femmes. Dieu sait que c'est super de sortir entre femmes, de se faire les boutiques, de se faire les trucs. Très bien, un repas entre femmes, c'est génial parce qu'on peut dire du mal du mari, ça fait du bien. Mais les vacances entre femmes, là j'ai une jeune femme qui part 8 jours au Portugal avec ses copines. J'ai dit, ton mari, ben, garde les enfants. Et il a combien de vacances? 15 jours, parce qu'il a un gros job. 15 jours de vacances, donc elle en prend la moitié pour partir avec des copines. Ben, comment vous voulez que la vie de famille soit existante? C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je sais pas, on verra, on va voir combien ça va durer. Bon. Donc j'avais dit, donc, les sorties, les vacances, passer les vacances avec vos époux et vos enfants, ça c'est important. Mais ici, on voit ça, donc ça me fait que du bien ce que je vois ici. Donc le vocabulaire employé, très attention, et à reprendre nos enfants, mes petits-enfants qui sont plutôt élevés assez durement, quand ils sont tout seuls, ils parlent. Je vais voir, je n'ai peut-être pas bien entendu, et là ils sont très gênés, et je leur ai expliqué l'importance du vocabulaire, l'importance du mot, parce qu'on ne dit rien. Voilà. Ce qu'il nous faut aussi éviter, ce sont les reproches tacites. On ne dit rien, mais on en a gros sur le cœur, et on les garde, on les garde, on les garde. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça finit par faire de la gangrène. Alors, bon, ça vaut ce que ça veut dire, mais ce que ça vaut, mais faites une lettre avec mon amour chéri. Voilà, aujourd'hui, ben, y a quelque chose qui m'a fait de la peine. D'abord, il faut commencer toujours par des choses bien. Je t'aime, c'est formidable avec toi, etc. Enfin, bon, vous dites. Et puis après, cependant, il y a quelque chose qui m'a fait du chagrin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accuser, mais montrer le chagrin que l'acte nous a donné. Et c'est ça qui fait qu'on changera. Et c'est parce que votre époux lira cette lettre que vous allez pouvoir parler avec lui sans qu'il y ait de reproche. Parce que le fait d'écrire, ça casse la colère. Ça empêche l'énervement, mais ça permet aussi la discussion. Et si on sent que c'est un peu trop tendu, ben, on attend, on fait un « Je vous salue Marie », on recommence. Et puis, il y a une chose aussi, alors ça c'est un prêtre qui m'avait dit ça, c'est les murmures. Vous savez, quand vous dites à votre mari, est-ce que ça t'ennuierait pas de mettre la table, s'il te plaît? Et il est 8h moins le quart, donc très bien, 8h, 8h et quart. Retournez une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, la table n'est toujours pas mise, vous avez décidé ce jour-là de ne pas mettre la table. Et à partir de 8h, jusqu'à 8h30 quand il arrive, vous êtes en train de dire, mais c'est pas possible, est-ce qu'il pourra un jour comprendre ce que je fais? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va se dire que le travail que je fais a autant d'importance que celui qu'il est en train de faire? Vous voyez? Ça, c'est les murmures. C'est pas très bon. Franchement, c'est pas très bon, parce que ça entraîne une colère. Donc, c'est un prêtre qui m'a expliqué ça. Hein. Il dit, dans la Bible, il est en train de travailler sur ça d'ailleurs, sortir un livre là-dessus. Si on murmure, ça entraîne des catastrophes. Donc, attention, pas de murmure. Ça va plaire de moi, ça vient de ce prêtre. Et je voulais aussi dire que dans un couple, il y a des mots qui sont extrêmement importants à dire. C'est merci, s'il te plaît et pardon. Et ça, ce sont des mots qu'on devrait dire un certain nombre de fois par jour pour l'harmonie du ménage, quoi. Ça me paraît important. Et puis, on ne peut pas non plus accepter quoi que ce soit de son époux, parce que là aussi, il y a des choses difficiles à vivre pour vous tous, dans tout ce qui est proposé sur Internet, etc. On ne peut pas accepter n'importe quoi si ça n'est pas construit sur l'amour de Dieu. On se doit d'avoir des choses qui soient construites sur l'amour de Dieu. Quand on veut un ménage chrétien, il n'y a pas à chiquer. Tout ce qui n'est pas, je ne dis pas conforme à la loi parce que c'est affreux, mais tout ce qui n'est pas dans le chemin que Dieu nous propose pour aller au ciel, à travers la Sainte Vierge, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas accepter le visionnage de certains films, il ne faut pas accepter la lecture de certains livres. Ça nous avilit, ça nous abaisse et on ne construit rien avec tout ça. Je sais que je m'attaque à quelque chose de très lourd et très gros, qu'on côtoie avec les accompagnements, mais c'est très important, je vous assure, ne vous laissez pas abîmer par tout ça. Et puis, quand il y a des soucis, des colères, ne mettez pas les enfants au milieu, parce que ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top, il vaut mieux qu'ils aillent voir grand-père et grand-mère, c'est beaucoup plus facile, comme ça, on s'explique, et puis ça y est, on fait les 15 lettres qu'on a écrites, et puis voilà, c'est bien. Donc, il me semble que pour vivre pleinement heureux comme Marie et Joseph avec l'enfant Jésus, en n'étant pas vraiment des saints, eh bien, on va essayer de faire nos maris des saints pour qu'ils nous aident à le devenir aussi. Non, c'est une blague, bon voilà. Mais on va essayer de faire en sorte de prendre chez Marie le mieux pour pouvoir accéder au mieux dans nos vies. Et le mieux pour accéder à ça, c'est de prendre le chapelet. Je le disais quand je parlais de la Sainte Vierge. Je vous assure, si on vit les éléments de la vie de Marie, hein, on n'a pas besoin de dire 25 « Je vous salue », c'est pas ça, mais de voir ce qu'elle faisait à ce moment-là. Hier, ils ont fait un super chapelet, un super rosaire, en expliquant les événements de la vie de Marie. Eh bien, là, on se dit, bah, si j'étais dans la même situation, si je faisais ça, oui, alors... C'est pas facile, je dis pas que tout ce que je dis c'est pas facile, hein, mais c'est ce vers quoi on doit tendre pour pouvoir mener notre époux, nos frères et sœurs, nos enfants vers le ciel. Et que c'est ça que le bon Dieu nous demande à nous, femmes, aujourd'hui. Et nous, les femmes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que n'importe quelle époque, je vous garantis. Hein. Voilà, j'y étais pas aux autres époques, mais c'est vrai. Voilà.